Balado, sociologie et société. Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphane Moulin, professeur au département de sociologie et directeur de la revue Sociologie et Société. Pour ce troisième balado de la revue, j'ai le plaisir de m'entretenir avec David Coussens et Roberto Blancart, qui ont dirigé le numéro thématique intitulé « La laïcité, ses actrices et ses acteurs ». Alors David Coussens, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Vous dirigez la chaire de recherche droit, religion et laïcité. Vous êtes membre régulier du centre de recherche société, droit et religion de l'Université de Sherbrooke et du centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. À l'Université de Sherbrooke, vous avez mis sur pied et dirigé le centre d'études du religieux contemporain, ainsi que dirigé la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Vous avez aussi refondé la Société québécoise pour l'étude de la religion que vous avez présidée de 2016 à 2020 et vous présidez actuellement la Corporation canadienne des sciences religieuses. Vous travaillez comme sociologue et juriste, donc double formation, sur les laïcités en francophonie avec une expertise portant plus particulièrement sur la France, le Québec et la Belgique. Sur la France, vous avez publié notamment en 2015 l'épreuve de la neutralité, la laïcité française entre droit et discours. Et en 2023, vous avez publié « Secularism in Contemporary France, Law, Policy and Religious Diversity ». Vous avez aussi publié de nombreux articles et chapitres sur la laïcité au Québec, dont les discours sur la laïcité pendant le débat sur la charte des valeurs de la laïcité, ou comment les partis politiques québécois se représentent-ils la laïcité. Vous êtes enfin en train de terminer votre prochain livre qui porte sur la laïcité en Belgique, et plus particulièrement sur sa reconnaissance par l'État en tant que culte non confessionnel. Alors Roberto Blancart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Centre d'études sociologiques El Colegio de Mexico, que vous avez dirigé de 2006 à 2012. Vous avez été fondateur du programme interdisciplinaire d'études sur les religions, membre du Conseil de la Commission nationale de bioéthique et du Conseil national pour prévenir la discrimination. Vous avez été membre du comité exécutif de la Société internationale de sociologie des religions et président du comité de recherche en sociologie de la religion de l'Association internationale de sociologie. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres majeurs sur la religion et la laïcité, entre autres en 1992, Histoire de l'Église catholique au Mexique, en 2008, Sexe, religion et démocratie, et en 2013, Laïcité, religion et biopolitique. Et plus récemment, en 2018, vous avez coordonné le dictionnaire des religions en Amérique latine. J'aimerais commencer ce balado par une question sur le titre du dossier thématique, La laïcité, ses actrices et ses acteurs. Comme vous le rappelez en introduction, longtemps, les travaux universitaires ont mis la focale sur les relations entre les États et les Églises, en étudiant la laïcité comme un principe d'organisation politique. Alors, quels sont donc les nouveaux acteurs de la laïcité et comment cela nous conduit à penser la laïcité autrement que comme un principe d'organisation politique, justement? Peut-être en commençant par vous, David?
Oui, alors, on observe en effet un vrai déplacement dans l'analyse de la laïcité, simplement peut-être pour rappeler que dans un premier temps, la laïcité a été un objet de recherche qui a été très largement accaparé par les juristes et les historiens, et qui travaillaient notamment à partir du droit et la façon dont évoluaient juridiquement les rapports entre État et religion. Et les sociologues qui ont travaillé sur la laïcité ont d'ailleurs précisément travaillé à partir de regards socio-historiques et socio-juridiques. Ceci dit, depuis une vingtaine d'années, on se rend compte que la construction sociologique de l'objet laïcité va connaître certains déplacements, et certains déplacements qui sont liés notamment au fait que la laïcité s'autonomise dans la société. Le mot laïcité va s'autonomiser dans la société, c'est-à-dire qu'il va être progressivement réapproprié par tout un ensemble d'actrices et d'acteurs. Et ça se fait dans un contexte depuis une vingtaine d'années, donc de publicisation des enjeux de laïcité, dans le cadre notamment des controverses sur la visibilité du religieux dans la sphère publique, essentiellement le port du voile, comme on a pu le voir au Québec. On le voit essentiellement à travers une publicisation des débats sur la laïcité qui peuvent émerger dans le cadre notamment des controverses sur le port de symboles religieux dans la sphère publique. On l'a vu au Québec avec la question du port du voile, la montée des populismes également, ce qu'on observe en Amérique latine, mais ailleurs et un peu partout dans le monde en ce moment, mais aussi la montée des débats et des questions sur les droits sexuels et reproductifs. Et donc, on a tout un ensemble d'acteurs qui vont même parfois être nouveaux, qui vont apparaître dans le débat sur la laïcité. Alors, traditionnellement, il y avait les grandes religions, les catholiques, les protestants, mais les musulmans entrent dans les débats sur la laïcité, les sikhs, les groupes évangéliques, mais aussi tout un ensemble d'acteurs laïcs, les groupes féministes qui sont interpellés par ces questions, les mouvements LGBTQ, les partis politiques qui voient un intérêt pour surfer sur la laïcité qui devient un enjeu électoral très, très important. Et donc, dans ce cadre-là, il va y avoir tout un ensemble de nouveaux vocabulaires qui vont être associés à la laïcité, des nouvelles valeurs, et des vocabulaires et des valeurs qui sont parfois en contradiction. C'est assez intéressant d'un point de vue sociologique d'observer ces déplacements, parce que ça permet d'essayer de comprendre des phénomènes qui peuvent être éventuellement déroutants. Comment, par exemple, on peut comprendre que la laïcité, qui a longtemps incarné des principes de gauche, des valeurs de gauche, soit aujourd'hui de plus en plus réappropriée par des partis de droite, voire des partis d'extrême droite. Comment on peut comprendre que le principe de laïcité va être mobilisé d'un côté par des associations de musulmanes qui vont se revendiquer de la laïcité pour demander le droit à porter leur symbole religieux, mais en même temps, ce principe de laïcité, il va être mobilisé d'un autre côté par des groupes de libre-penseurs ou des groupes humanistes, précisément pour refuser la visibilité de symboles religieux dans la sphère publique. Donc, ces déplacements sont intéressants à observer aujourd'hui sur le plan sociologique et permettent donc de comprendre les mutations de l'objet laïcité.
Roberto, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ces déplacements ?
Oui, en fait, je crois qu'il faut se souvenir que la laïcité, à l'origine, a à voir avec la liberté de conscience. Et au début, on pensait que la question de la liberté de conscience, c'était surtout un problème avec les religions, un problème que l'État devait résoudre d'une manière ou d'une autre. Mais on oublie que la question de la liberté de conscience n'est plus un problème qui a tout à fait, disons, complètement à voir avec les religions. Les religions ont bien sûr quelque chose à dire sur la question, mais la liberté de conscience maintenant a, disons, à voir avec pas seulement une question de liberté religieuse, mais avec d'autres libertés où les religions ont quelque chose à dire, mais pas seulement. Donc, il y a maintenant le droit civique, le droit, disons, séculier, qu'on doit faire face. Par exemple, quand on pense à la question de droits sexuels et reproductifs, ce sont des nouveaux problèmes que la liberté de conscience doit aussi, jouer un rôle important dans ce type de droit. Avant, c'est-à-dire au VIe siècle, on ne pouvait pas penser aux droits sexuels et reproductifs, on pensait à d'autres droits. Mais maintenant, la laïcité, on pourrait dire que, à moins, je vais exagérer, mais la laïcité a moins à voir avec la religion seulement. La laïcité a à voir avec d'autres problèmes de conscience où la religion a quelque chose à dire, mais pas seulement. Donc, je crois que c'est avec ces déplacements aussi qu'il faut comprendre le nouveau enjeu de la laïcité.
Merci. Alors, j'aimerais justement vous amener à discuter un peu plus ces nouveaux enjeux que les actrices et acteurs amènent en termes de droit. Parce que ces actrices et acteurs déplacent le conflit à des enjeux éthiques. Vous parlez des droits sexuels et reproductifs, on peut penser à l'avortement, aux identités de genre, et c'est très présent dans l'actualité au Canada. On a des organisations féministes qui vont devant les tribunaux au Québec pour démontrer que la loi sur la laïcité discrimine les femmes portant des signes religieux. Au Nouveau-Brunswick, on a un débat entourant la politique sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles publiques de la province. Il y a des groupes religieux qui défendent le droit des parents à exiger que les écoles informent, les informent si, si leurs jeunes souhaitent utiliser un autre prénom ou pronom que ceux qu'on leur a attribué à la naissance. Puis d'un autre côté, les défenseurs des élèves LGBTQ+, qui soutiennent qu'il s'agit d'une forme de divulgation forcée. Donc on a toute cette actualité, ces débats un peu contradictoires justement. Alors dans votre article, Roberto, vous dites que les droits des individus, des minorités, se situent au premier plan politiquement, obligeant à repenser la conception traditionnelle du rôle de l'État en matière de croyance et à jouer un rôle différent dans la défense des droits. Alors comment vous analysez ces nouveaux débats laïques ?
Oui, j'ai l'impression que, comme je disais avant, il n'y a pas que les religions qui ont quelque chose à dire sur la question. Parce que d'abord, ce n'est pas exactement les religions contre quelques droits, parce que dans les religions, il y a plusieurs positions. Donc on a des gens qui sont religieux, très religieux, mais qui sont en faveur de certains droits, et des gens qui sont très religieux, qui sont contre ces droits. Donc, ce n'est pas une question de religion contre quelques droits, c'est plutôt une question de plusieurs positions dans la société où maintenant on comprend que l'État a un certain rôle à jouer, mais ce n'est pas le même rôle qu'il jouait avant. C'est-à-dire, ce n'est pas les rôles autoritaires où l'État décidait de le chemin qu'il fallait qui sont traversés pour arriver à des droits. Maintenant, on a plusieurs positions chez les parents, chez les enfants, chez les religions. Donc, l'État, par exemple, doit comprendre que la manière de concevoir la relation entre la laïcité et les libertés et les religions est très différente par rapport à ce qu'on entendait avant. Mais en plus, l'État doit comprendre que, par exemple, la manière de vivre, par exemple, sa catholicité, c'est très différent entre les groupes populaires et les classes moyennes ou les hautes, disons, les classes les plus aisées. Donc, c'est toujours en pensant à cette diversité que l'État doit repenser aussi sa manière de, disons, proposer une laïcité. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, il faut comprendre que dans une société moderne, démocratique comme la nôtre, il faut penser que la société n'est pas homogène, n'est pas monolithique, et qu'il faut faire rentrer les droits, disons, le plus possible des droits de tout le monde. Et ça, évidemment, c'est pas évident, c'est pas facile, non?
Et Roberto a tout à fait raison de dire que la laïcité aujourd'hui n'est plus seulement une affaire de religion, et principalement parce qu'à nouveau, elle est réappropriée. Et elle va être réappropriée, par exemple, par ce qu'on appelle des entrepreneurs de cause, ou des entrepreneurs de sens. Donc ça va être tout un ensemble d'acteurs qui vont reprendre la thématique de la laïcité et qui vont volontairement s'employer à redéfinir la laïcité en fonction de projets qui sont des projets idéologiques, politiques, éventuellement religieux, électoraux. Et donc la laïcité se déplace, n'est plus nécessairement associée à des grands principes traditionnels comme la séparation des églises et de l'État, la liberté de religion, mais peut toucher à d'autres questions. Ce qu'on observe, par exemple, aujourd'hui, c'est des vrais débats, des vrais déplacements, pardon, sur les questions d'immigration, d'intégration, de valeurs communes et de valeurs qui peuvent aussi être des valeurs séculières. Et ces débats peuvent, le cas échéant, se retrouver devant les tribunaux. On l'a vu au Québec avec la contestation judiciaire de la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, mais on le voit aussi très particulièrement à travers toutes les contestations qu'il peut y avoir aujourd'hui de la présence des questions de genre dans les curriculums. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant du cas du Nouveau-Brunswick. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que ces débats de laïcité, ces enjeux de laïcité, ont tendance à se globaliser. Donc, si en ce moment, on observe ce débat et cette question du droit des parents versus la présence des questions de genre dans le curriculum au Nouveau-Brunswick, eh bien, exactement au même moment, on a le même débat en Argentine, au Brésil, en Belgique. Et donc, on a vraiment une circulation qui fait que les débats se reconfigurent dans des termes assez similaires un peu partout aujourd'hui.
Précisément, ça m'amène à une des grandes qualités, je pense, du dossier de thématique de sociologie et société que vous nous proposez, qui est de prendre la mesure de la diversité des contextes nationaux dans lesquels se déploient les enjeux de laïcité que vous analysez. Et le dossier parcourt ces enjeux en France, au Mexique et au Québec, mais aussi en Argentine, au Japon et au Liban. Donc on a... au Japon, l'article de Kiyonobu daté qui nous montre que des milieux de droite se réapproprient la laïcité. Au Liban, Fatia Kawes nous montre que des clubs laïcs fédérés en réseau ont vu le jour au sein des universités, que donc on a plutôt des jeunes progressistes qui s'approprient la laïcité dans un contexte de confessionnalisme politique. Et puis en Argentine, Lila Eisenberg, Juan Cruz Esquivel et Juan Marco Fagione montre comment l'activisme pro-vie emprunte aussi des voies démocratiques et incluant des arguments qui ne sont pas directement liés aux religieux. On a aussi une entrevue que vous avez menée avec Bianco, qui est un ancien ministre français et l'ancien président de l'Observatoire de la laïcité, qui permet de revenir sur les évolutions contemporaines de la laïcité française, notamment sur le fait que l'extrême droite tente de s'approprier la laïcité pour promouvoir un combat anti-étranger, anti-travailleurs immigrés, anti-musulmans. Alors, on a cette diversité et j'aimerais vous entendre sur ces comparaisons, sur ce qu'elles nous apprennent sociologiquement, sur les tendances communes et aussi sur les différenciations.
Moi, je dirais que ça nous montre qu'il n'y a pas une laïcité, mais qu'il y a des laïcités, qu'il y a des modèles de laïcité qui sont en conflit parfois, et qu'il faut trouver, disons, si on veut trouver le lien entre la laïcité, l'origine et la laïcité d'aujourd'hui, il faut trouver quelles sont les lignes qui suivent historiquement la poursuite des droits, la poursuite des droits humains. Et je donne un exemple. Par exemple, au XIXe siècle, on avait la discussion sur les mariages en tant que contrat et pas en tant que sacrement, parce qu'il n'y avait pas dans pas mal de pays la possibilité de se marier en dehors de l'Église. Et c'est à cause de cette bataille, disons, de cette lutte, qu'on a pu concevoir la possibilité d'un mariage non sacramental, non religieux. Et c'est en suivant cette ligne qu'on peut trouver aujourd'hui que toutes les luttes pour le mariage entre personnes du même sexe suivent la même ligne, dans le sens que si on comprend que le mariage est un contrat entre deux personnes et pas un sacrement, alors on peut comprendre que le mariage peut être concevus, disons, appris entre deux personnes du même sexe et pas nécessairement entre deux personnes du sexe différent. Donc, si on suit cette ligne, on peut suivre qu'il y a une laïcité libérale qui a protégé les droits de l'homme, les droits des personnes. Et il y a maintenant d'autres laïcités qui ne suivent pas nécessairement la même ligne, qui suivent d'autres lignes plus autoritaires, plus conservatrices, et qui pourtant se montrent comme possibles dans nos sociétés. Et c'est les sociétés qui vont choisir quel type de laïcité ils préfèrent. Elles préfèrent. Donc, c'est ça l'enjeu, véritablement, je dirais. Quel type de laïcité les sociétés vont choisir? Et ce n'est pas nécessairement dit qu'elles vont choisir la laïcité libérale qui a protégé les droits des personnes.
L'exemple que donne Roberto de la redéfinition du mariage civil et son ouverture aux conjoints de même sexe comme enjeu de laïcité est vraiment intéressant et intéressant aussi à réfléchir pour nous au Québec. Pourquoi? Parce que on a parlé tout à l'heure de la loi sur la laïcité de l'État qui a été adoptée en 2019. Mais cette loi sur la laïcité de l'État, elle a été adoptée dans un contexte où on ne parle que de laïcité à partir de la question du port de symboles religieux, de la visibilité de certaines expressions de foi. Et donc la laïcité, dans une perspective québécoise, elle est réduite à cette seule question de l'expression individuelle des croyances par le port de symboles religieux. Le regard latino-américain ici est vraiment intéressant. Il est vraiment intéressant parce qu'au Mexique, on a une laïcité donc, qui est très ancienne, qui est établie. Qui a commencé à se construire au milieu du 19e siècle dans des combats contre les prétentions cléricales de l'Église catholique et qui aujourd'hui continue de se construire. Mais au Mexique, il n'y a pas ou très peu de musulmans. Il n'y a pas d'enjeu lié à l'islam. Et donc, on ne réfléchit pas la laïcité à partir de la question du port du voile dans la fonction publique. Et donc, on voit qu'il y a. L'Amérique latine, par exemple, est très intéressante pour nous au Québec parce qu'elle nous permet de déplacer aussi notre regard et d'aller comprendre la laïcité sur d'autres terrains qui sont ici des terrains d'autonomisation du droit, de laïcisation du droit, donc de séparation des normativités religieuses et civiles, et qui sont des enjeux de laïcité particulièrement importants. On le voit notamment sur des questions comme celle de l'IVG. Ou les questions de genre qu'on a évoquées tout à l'heure, parce qu'elles rejaillissent très périodiquement dans le débat public.
J'aimerais vous faire de nouveau parler sur cette idée de laïcité de droite qui revient à la fois dans le texte de Kiyonobu Date, dans le contexte japonais, et puis dans aussi les observations de Bianco sur les rhétoriques d'extrême droite. Dans quelle mesure c'est plus une rhétorique ou des éléments qui peuvent être consubstantiels finalement aux enjeux contemporains de la laïcité?
J'ai l'impression que il faudrait peut-être mieux parler de laïcité autoritaire ou disons d'un type plutôt autoritaire de laïcité plus que de droite, parce que la droite et la gauche parfois et surtout disons à nos jours, ça se mélange d'une manière tellement grande avec l'extrême droite et l'extrême gauche. On peut parfois complètement se perdre dans ces chemins. Donc, je voudrais plutôt dire c'est une laïcité autoritaire qui a existé historiquement et qui revient dans un contexte différent, mais que c'est le même type de laïcité imposée par une élite qui pensait le meilleur chemin pour la société dans sa totalité. Et je crois que ça marche plus comme ça parce que d'abord, nos sociétés sont très différentes aux sociétés du 18e ou du 19e ou du 20e même, parce que ce sont des sociétés beaucoup plus diverses, beaucoup plus mélangées, et avec des identités très variées et qu'il faut comprendre cela disons, pour pouvoir parvenir à une idée de laïcité plus moderne, plus contemporaine.
Moi, j'aurais un point de vue qui serait peut-être un peu différent de celui de Roberto, parce que effectivement, donc, ce sont des laïcités de type autoritaire qui ont pu exister, qui ont pu être des laïcités, qui ont été mises en œuvre par des forces de gauche à une certaine époque, mais qui aujourd'hui sont néanmoins, je pense, vraiment monopolisées par des partis politiques de droite, et précisément parce qu'on est dans des sociétés qui sont caractérisées par une plus grande diversité. une diversité des valeurs et qui crée des incertitudes. Et donc, cette laïcité, elle est mobilisée aujourd'hui à des fins identitaires. Et on l'a vraiment vu très clairement au Québec. Mais on l'a vu dans d'autres contextes nationaux aussi, comme en France. En France, c'était d'ailleurs même très explicite, parce qu'il y a eu un moment qui a été un gros choc, ça a été 2002. Jean-Marie Le Pen, le leader d'extrême droite, arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et donc, ça crée une prise de conscience et le président Jacques Chirac décide de mobiliser la laïcité comme une valeur commune sur laquelle on pourrait recréer du commun, précisément. Et il va mandater un député qui s'appelle François Baroin pour travailler sur cette question. Et ce député va rendre un rapport auquel on réfère encore très souvent, qui propose une nouvelle laïcité en disant qu'il faut que la droite se réapproprie une valeur qui a longtemps été une valeur de gauche. Et on a cette nouvelle laïcité qui va émerger, alors comme rhétorique, hein, comme narratif, vous avez raison, et qui va se construire en tant que narratif, mais avec un effet performatif. Et avec un effet performatif, parce qu'il y a un moment où cette rhétorique, elle peut permettre de faire plier le droit. Et on le voit avec des lois qui vont progressivement interdire le port de symboles religieux dans la fonction publique, puis l'étendre également à la sphère privée. En France, donc, c'est un mouvement qui a été engagé en 2004 et qui s'est poursuivi jusqu'à la fin des années 2000.
Je suis d'accord avec David dans le sens que, bien sûr, on doit parler d'une extrême droite qui veut reprendre les valeurs de la laïcité. Mais en réalité, je crois qu'il faut parler de groupes qui ne sont pas vraiment dans la ligne de la laïcité, disons, libertaire historique. Ce sont des groupes qui sont dans la ligne de laïcité autoritaire. Dans notre temps, une laïcité autoritaire liée à un sens identitaire, mais qui en réalité fait face à une laïcité qui prenait et cherchait des libertés, la plupart des libertés pour les gens. Par contre, cette nouvelle, disons, entre guillemets, laïcité, c'est une laïcité qu'on ne peut pas nier qu'elle existe, mais qui est une laïcité qui ne prend pas, disons, la liberté, mais plutôt cherche à limiter d'une manière autoritaire les libertés des gens, ou quelques libertés des gens, donc à cause d'une prétention identitaire. Donc, c'est une laïcité qui cherche les libertés versus une laïcité qui cherche à limiter quelques libertés. Et donc, c'est dans ce sens que, même si on trouve, des raisons contemporaines différentes à celles du 19e ou du 20e, ce sont des laïcités nouvelles qui ne cherchent pas et ne suivent pas la même ligne historique de la recherche de la plupart ou plus de liberté pour les gens. Au contraire.
Finalement, vous développez l'idée qu'il y a plusieurs laïcités et que dans l'espace public, on tente à réduire cette pluralité et finalement à ne parler que d'une seule laïcité qui serait celle qu'il faudrait mettre de l'avant. Est-ce que vous pensez qu'il y a qu'on ne parle pas assez de ce pluralisme dans les débats publics ?
Ce qui est difficile, c'est que précisément dans le débat public, on va avoir des actrices et des acteurs qui sont engagés, donc qui sont ces entrepreneurs de sens laïcs et qui portent donc une définition, une conception de la laïcité. Donc quand un parti politique fait adopter une loi qui est la loi sur la laïcité, évidemment c'est une conception de la laïcité qui est particulière et qui à un moment donné va performer et va se retrouver inscrite dans le droit. Mais ce regard sur la laïcité n'est pas le seul. La laïcité qu'on a aujourd'hui au Québec, c'est probablement pas la même qu'il y aura dans 10 ans, et c'est certainement pas la même qu'il y avait il y a 10 ans, et pourtant, c'était la laïcité. Donc la laïcité est vraiment plurielle, et elle est plurielle dans ses aménagements juridique, dans ses aménagements politiques. Les gouvernements changent, mais c'est toujours des formes de laïcité qui sont plus ou moins garantes de la liberté, donc avec des variations. Mais après, on a aussi ces laïcités qui sont racontées, ces laïcités comme on les raconte, ces laïcités narratives, donc que chacun va porter, et qui est intéressant pour nous d'observer en tant que sociologue, parce que justement, le cas échéant, il y a un moment où il y a certaines de ces laïcités qui vont peut-être trouver ancrage dans le droit et donc contribuer à transformer la société.
Oui, je pense que on peut pas dire, c'est une question méthodologique pour nous sociologues, on peut pas parler d'une vraie laïcité, parce que ça voudrait dire que nous sommes normatifs en pensant la laïcité. Et on peut pas être comme ça si on veut être de bons sociologues. On doit parler de plusieurs types de laïcité qui sont en conflit dans une société et elles sont tous à la recherche d'une hégémonie idéologique dans le sens que, bon, ils veulent tous s'imposer. Et c'est pour ça que je fais un exercice il y a quelques années avec un article de la Constitution mexicaine où je prouvais en utilisant une typologie bévérienne de laïcité, je montrais qu'en effet, une typologie qui est expliquée par Milo et Bobéron, en expliquant que dans un même article de la Constitution, il pouvait y avoir au moins trois versions de laïcité en dispute. Et si on trouve ça dans un article de la Constitution, on peut imaginer dans la société qu'il y a plusieurs types d'idées, disons, sur la laïcité qui sont en dispute. Et alors la question c'est, quelle laïcité va s'imposer, va être hégémonique à un certain moment donné, non? Et c'est ça que ce qu'on discute maintenant, je crois.
À nouveau, on le voit encore très clairement au Québec et dans le Québec d'aujourd'hui. On va avoir une forme de laïcité qu'on qualifie de séparatiste, qui insiste sur le principe de séparation des églises et de l'État, et qui s'incarne dans la loi de 2019 qui interdit le port de symboles religieux à certaines catégories de fonctionnaires. Mais d'un autre côté, il n'est toujours pas interdit d'avoir des crucifix ou symboles religieux dans les institutions publiques. Et donc ici, on va avoir une forme de laïcité, de reconnaissance, collaboration, qui attribue une place privilégiée à certaines expressions du religieux, celui de la majorité, hein, qu'on va patrimonialiser, qu'on va culturaliser donc dans la sphère publique. D'un autre côté, on continue de financer des écoles privées religieuses ou d'attribuer de façon indirecte des subventionnements ou des exonérations d'impôts pour des communautés religieuses. Donc on voit que finalement les aménagements laïques sont très différents selon l'objet sur lequel on s'attarde dans le temps aussi. Et c'est ce qui est intéressant pour nous d'observer.
On a beaucoup parlé là des discours de la laïcité, mais l'une des autres qualités du dossier que vous nous proposez, c'est de plonger dans la laïcité vécue. J'aimerais vous entendre sur comment les normes de laïcité sont négociées par le bas, c'est-à-dire par les agents de l'État qui sont chargés de la mettre en application. Donc on a deux articles dans le dossier, hein, qui s'attellent à analyser ça. On a Vanille Laborde, qui s'attache à décrypter ce qu'elle qualifie, elle, de laïcité au concret dans les pratiques de professionnels de l'éducation nationale en France. Puis on a Bertrand Lavoie qui mobilise la notion de laïcité vécue pour analyser les réponses que les personnels soignants d'une salle d'urgence au Québec apportent aux demandes de nature religieuse exprimées par des patients. Donc, je voulais savoir ce que vous pensiez de ces études. Ce qu'elle nous donne à voir comme décalage, qu'est-ce que ça nous apprend sur les normes de laïcité?
Oui, alors en effet, on voit se développer depuis une dizaine d'années des travaux sur ce qu'on appelle la laïcité vécue ou la laïcité personnelle. Et ça se développe dans la foulée de de travaux d'une anthropologue qui s'appelait Sabah Mahmoud. Et donc, on va ici regarder comment soit des professionnels vont, dans leur action, interpréter des normes de laïcité et les mettre en pratique, mais aussi des individus dans leurs actions quotidiennes, dans leurs interactions quotidiennes. Donc, comment ce qu'ils interprètent de ce qu'est la laïcité peut éventuellement influencer leur comportement. Alors, ça nous permet de comprendre la laïcité autrement et de façon tout à fait intéressante. Et je reviendrai ici simplement sur l'article de Bertrand Lavoie qui nous permet de donner une illustration très très claire. Il a travaillé notamment sur la façon dont les urgentistes, donc les personnels soignants dans les salles d'urgence d'hôpitaux, performaient la laïcité, vivaient la laïcité. Et ce qui est une question qui est très intéressante, parce qu'on est dans des contextes où des personnels publics astreint une obligation de laïcité, de neutralité, et qui représente une institution qui doit être neutre, se retrouvent parfois confrontés à des demandes de nature religieuse qu'ils doivent éventuellement réfléchir, voir comment les prendre en compte, parce qu'il y a peut-être un autre intérêt qui arrive ici, qui est l'intérêt du soignant. Avec un cas, par exemple, que je donnerai ici, que fait-on quand le service d'urgence est saturé un vendredi après-midi et qu'une famille dont la religion prescrit un respect du Shabbat arrive et demande à passer en priorité pour que les obligations religieuses soient respectées. Donc il y a des enjeux qui sont très concrets de façon dont la laïcité va se vivre et qu'on peut voir sur tout un ensemble de terrains.
Et je me souviens d'une interview que j'ai fait à Émile Poulain quand il avait déjà 93 ans, quelque chose comme ça. Et il m'a dit, la laïcité, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la laïcité est un concept nous faisons pour comprendre la réalité. Donc, il y a la laïcité à l'école, ça c'est plus clair, il y a la laïcité dans les hôpitaux, mais la laïcité en tant que concept peut jouer un rôle, disons, à partir de ce qu'on essaie, nous, de définir qu'est-ce que la laïcité. Et à partir de là, on essaie de mettre, disons, les données sociaux pour voir si cela, disons, peut, d'une manière ou d'une autre, s'identifier à ce que nous définissons comme laïcité. Et c'est ça la question. Donc, la laïcité, elle n'existe pas dans ce sens. Elle existe, disons, en tant que concept et en tant que réalité. Et mélanger les deux choses, c'est un peu notre travail. Et le grand obstacle à étudier la laïcité, c'est de soit d'être normatif, essayer de comprendre la laïcité seulement à partir d'un concept, soit de comprendre la laïcité à partir des données qui ne suivent pas l'origine historique de la laïcité et qui nous donne, disons, les coordonnées de ce qui, au moins, à un certain temps, à un moment donné, a été défini en tant que tel. Et c'est là notre problème, n'est-ce pas? La laïcité telle qu'on peut la vivre, c'est différent d'après ce qu'on entend comme ça, non? Entend par laïcité d'abord, non? Je sais pas si c'est pour ça que cela devient de plus en plus compliqué, parler de la laïcité en tant que, disons, concept qui puisse nous définir de ce qu'on vit, non? N'est-ce pas?
Donc on voit bien à travers toute la richesse du dossier que vous nous présentez combien le regard sociologique apporte à notre compréhension des laïcités. Et j'aimerais vous entendre peut-être pour terminer sur ce que l'étude de la laïcité nous apprend en tant que sociologue, de manière plus générale. Donc, ce qu'en retour, hein, l'analyse de la laïcité peut nous dire, nous apprendre sur la sociologie. Quels enseignements en termes de sociologie générale on peut tirer, notamment des nombreuses contributions de votre numéro?
Bon, déjà, je crois que on a compris qu'il n'y a pas la laïcité, il y a des laïcités, des manières de comprendre ce qu'on entend par là. Et puis, je crois que le dossier nous aide à comprendre aussi la diversité des manières de vivre la laïcité, de manières de comprendre ce qu'on entend par ce phénomène. Mais en même temps, les différents enjeux politiques qui peuvent suivre à ce type de définition. Donc, c'est intéressant comment la sociologie peut, disons, contribuer à éclairer, dans un certain sens, le débat politique. Non? Parce que parfois, les débats politiques sont tellement confus et les politiciens sont tellement confus dans la manière de présenter leurs idées qu'on n'arrive pas à voir que véritablement l'enjeu. Et je crois qu'un dossier de ce type nous aide à comprendre la complexité du problème et nous sortir de nos coordonnées nationales ou régionales qui sont la plupart du temps très, très réduites et qui ne nous aident pas à comprendre le phénomène en général et aussi à trouver, si possible, quelques solutions pour vivre ensemble.
Moi, je pense que ça peut aussi apporter autre chose pour notre travail en tant que sociologue. C'est peut-être nous inciter à la vigilance et à la prise de distance au regard de notre objet. On se rend compte, et là je reviens spécifiquement sur le Québec, que la laïcité a été essentiellement travaillée à partir de la façon dont, depuis 20 ans, les gouvernements successifs et les débats publics, les médias, ont défini les contours d'une notion en la restreignant à la question de la visibilité du religieux dans la sphère publique. Et des travaux peuvent éventuellement ne pas s'émanciper, ne pas se distancer de la façon dont la laïcité va être construite par, justement, ces débats, ce politique, la société. Et donc, je pense que ce qu'on a voulu faire aussi avec ce dossier, c'est inciter à une forme de vigilance et de prudence en disant ne laissons pas guider la définition de notre objet par la société, mais mettons en place des outils qui nous permettent de déplacer le regard et d'en avoir peut-être une vision plus large.
Un grand merci à tous les deux, David et Roberto, pour ce formidable numéro thématique et pour les messages fondamentalement humanistes et politiques de vigilance que vous nous avez donnés.
Merci à toi, Stéphane. Merci à vous tous.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.